France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Vous qui nous rejoignez tous les jours à 15h en direct ou en podcast des semaines plus tard, peut-être des années plus tard, vous aimez lire des livres. Ce que peut la littérature vous intéresse. Ce devant quoi elle achoppe vous intéresse aussi. Peut-être que vous ne lisez qu'avec parcimonie, mais vous savez qu'un texte peut vous déplacer. Vous en avez à minima l'intuition. Vous savez aussi que certains livres vous ont laissé des traces et que vous avez hésité avant d'oser en ouvrir d'autres. Le livre qui nous occupe aujourd'hui est de ceux-là, qui avancent avec ces questions et ne vous laisse pas le choix d'y penser une fois refermé. Triste Tigre a paru aux éditions POL et son autrice Neige Sino est notre invitée pour en parler. Comme on est mardi, c'est avec Lou Quevauvillier que nous avons rendez-vous en fin d'émission. Elle clique sur un superbe site d'archives, il s'appelle Ubu. Et comme chaque jour, on se quittera en chanson avec vos trouvailles de lecture dans le grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bienvenue à vous aussi, Neige Sino.
Bonjour.
Bonjour. Votre livre Triste Tigre, pas facile à dire ce titre, je ne sais pas comment vous faites depuis, vous le répétez beaucoup. Il a paru aux éditions POL en cette rentrée littéraire, en plus il est important ce titre, on y reviendra. Il a remporté le prix littéraire du Monde et à l'heure où on se parle, c'est-à-dire à la fin du mois de septembre 2023, il figure sur presque tout ce qui peut se faire en termes de liste de prix littéraires de la rentrée, c'est-à-dire que c'est un livre qui a beaucoup retenu l'attention, on y reviendra tout à l'heure. Cette émission commence par un questionnaire de lecture, on essaye comme ça de proposer une sorte de premier portrait, on avance à pas de loup pour imaginer que nos invités sont d'abord et avant tout des lectrices et des lecteurs. Bonne intuition, car votre texte est lui-même tissé de lecture. On est en permanence comme ça, nourri, rattrapé, inquiété par des lectures que vous mettez à l'intérieur de votre livre. Est-ce que vous vous souvenez, Neige Sino, avoir appris à lire ?
Oui, je m'en souviens parfaitement. CP quoi, à peu près, hein, à l'école. Mais je m'en souviens parfaitement parce que c'est une époque où mes parents étaient séparés, je vivais avec mon père. Et j'ai des très très bons souvenirs de cette époque, je me souviens de l'époque en général. Et en particulier, apprendre à lire, je m'en souviens d'être à l'école et de... Le déchiffrement, pas seulement apprendre à lire, mais pouvoir déchiffrer un livre, ça a été comme si une porte s'ouvrait et que je plongeais dans le livre. Oui, je m'en souviens très très bien. Je me souviens pas de ma maîtresse, rien du tout, mais je me souviens que quand on travaillait bien à l'école, on nous offrait des petits... Il y avait comme des petites récompenses. Et c'était des contes, c'était des petits livres illustrés. Je crois que la collection, c'était les deux coques d'or. Assez mystérieux, d'ailleurs, quand on est petit, je me demandais pourquoi ça s'appelait comme ça.
Vous savez pourquoi ?
Non, c'est resté un truc comme ça dans ma tête. Et c'était des contes, et un des premiers contes, je pense que j'ai... gagné à ce truc, ça s'appelait Blanche-Neige et Rouge-Rose. Et c'est assez curieux parce que moi je m'appelle Neige, ma sœur s'appelle Rose. Et c'était comme si la vie et la lecture étaient bizarrement liées. Donc je me souviens très très bien de ça et du grand grand bonheur que c'était d'arriver à lire.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette idée du déchiffrement ? C'est quelque chose que disent beaucoup les invités à cette table, vraiment là. La fonction comme ça, on imagine en effet un enfant devant des signes et puis il y a quelque chose qui passe de l'incompréhension totale à une forme de, oui, d'éclairage. Vous, ça a laissé quoi comme trace ?
Alors, j'ai pas le souvenir de déchiffrer, d'apprendre. J'ai un souvenir très précis, je saurais pas me situer exactement où, mais que tout d'un coup, ça veut rien dire. Et d'un coup, ça s'éclaire et ça veut dire mille choses. Oui, j'ai un souvenir comme ça d'un monde, comme, et ça reste des mondes. On ouvre un livre et on rentre dans des mondes, et comme si ça s'offrait à moi tout fait, quoi. Alors que j'ai appris Bibo, sûrement. Mais je me souviens pas de ça, je me souviens d'une ouverture fabuleuse.
Vous avez écrit un livre sur la lecture, ça s'appelle « Lecteur entre les lignes ». Je fais semblant de savoir hyper bien traduire ce texte, qu'évidemment je n'ai pas lu. Il existe en langue espagnole, il n'est pas encore traduit, mais qui sait ? Apparemment, c'est un essai de lecture entre Bolaño, Pitol et Piglia. Qu'est-ce qu'il raconte et en quoi est-ce que ça nous renseigne sur la lectrice que vous êtes, Neige Sino, ou la chercheuse peut-être ?
Ah oui, je suis très présente dans ce livre, même depuis le début, je raconte... c'est un essai littéraire que j'ai pas très universitaire justement, que j'ai écrit à l'université et auquel j'ai tenté de donner une texture qui puisse être lue par tout le monde. Mm-hmm. En même temps, ça ne parle que de lecture, de lecteurs, de représentation des lecteurs. Et c'est en même temps, oui, l'étude de ces trois œuvres, mais à travers ce prisme-là. Parce que c'est ces trois grands lecteurs, des malades
eux-mêmes en tant que lecteurs.
Eux-mêmes en tant que lecteurs. Il y a un peu tout. Il y a eux-mêmes en tant que lecteurs, moi-même en tant que lectrice de leurs livres, et les représentations qu'ils ont de personnages lecteurs. Parce que c'est trois auteurs qui ont inventé des personnages lecteurs de toutes sortes. Des lecteurs compulsifs, des lecteurs heureux, des lecteurs malheureux, des lecteurs qui se perdent dans la vie, des lecteurs qui se perdent dans les textes. Bolaño, il a des lecteurs qui sont des détectives, détectives existentiels, mais détectives aussi dans la littérature. Et donc, c'était hyper intéressant de pouvoir se servir de ces images, de ces personnages pour explorer ce que c'est que la lecture. Parce que ça peut être mille choses.
Et c'est, qu'est-ce qui vous intéresse fascinant dans cette place-là, la place de celle ou celui qui lit Najsino?
Ce qui m'intéresse, c'est que c'est une façon de vivre pour certaines personnes. On est sûrement très minoritaire, mais on se reconnaît entre nous. Et c'est notre premier lien, pas nécessairement le premier, enfin un lien très important avec la vie pour nous. Donc c'est quelque chose de vivre en lecture. Comment on... Disons que moi, ça m'a bouleversée quand j'ai compris que j'étais pas la seule à faire ça. Et je pense que j'ai vécu toute ma vie avec cette joie qu'on était nombreux. Et quand j'ai écrit ce texte-là, j'ai trouvé que c'était une approche intéressante pour moi parce que ça me permettait de me plonger, de me reconnaître complètement dans certains des personnages lecteurs et dans certaines des choses qui sont dites sur la lecture par ces auteurs. Parce que la lecture, c'est peut-être aussi une activité qui représente quelque chose historiquement. La quête de sens, l'idée qu'on puisse communiquer dans une grande solitude avec quelqu'un qui est aussi seul, toutes ces choses-là, c'est, Bolaño, il dit, un héritage humaniste, je crois qu'il le dit comme ça. C'est-à-dire quand même croire que le monde est absurde, mais qu'à travers l'effort qu'on fait pour avoir un langage commun, on projette une possibilité démocratique, on va dire. C'est toujours un peu politique
en
quand même.
En tout cas, de relation à l'autre. Quoi.
Oui, de relation à l'autre et de chercher un langage commun. Celui qui écrit, il cherche un langage qui puisse être compris. Celui qui lit, il essaye de comprendre. Il y a cette espèce de relation aux autres qui est très présente.
Oui, d'ailleurs, vous avez souvent dit, en vous exprimant à propos de votre texte « Triste tigre » Najsino, que l'écriture ne vous avait pas rendu moins seule, que ça restait intact, que la violence de cette enfance, mais aussi de la solitude, peut-être consécutive à cette enfance, elle était intouchée, quoi, elle restait forte. Et en lisant tous ces moments où vous répondez aux interviews comme ça, je me disais, mais est-ce que lire... Par contre, ça vous a fait ou ça vous fait vous sentir moins seul? Est-ce que être lu, ça brise un peu de cette solitude-là?
Oui, ça, disons que j'ai l'impression que ça doit venir de très très loin parce que je me suis rendu compte que j'ai mis en exergue une citation de mon premier livre publié qui parle déjà de ça, d'une solitude où on est tous. C'est-à-dire que je ne suis pas moins seule, mais en pouvant percevoir la réalité d'autres solitudes,
ça la rend
moins grave. Oui, c'est ça où ça la rend. Ça fait partie de notre expérience humaine d'être seul. Je pense que je l'ai compris à travers la lecture. Ça, il y a plein de gens qui le comprennent autrement. Hein. On va tous mourir. Enfin, toutes ces choses là. Mais ce rapport philosophique un peu à l'existence qu'on doit avoir à l'adolescence, je pense, de se rendre compte qu'on est quand même toujours seul, on est seul et on meurt seul, tout ça. C'est une chose que j'ai perçue vraiment à l'intérieur des livres.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous attend, Najsino, patiemment?
Oh là là, il y en a plein. Il y a des livres qui m'attendent, je me les garde. Il y a des auteurs, quand j'aime beaucoup un auteur, je lis son œuvre complète.
Mais ils sont chez vous, ils vous attendent ou ils vous attendent comme ça, un peu, on va dire, théoriquement? Non, ils vous attendent vraiment.
Ils m'attendent vraiment. Il y a des petits livres qui sont dans un coin. Je me dis, si je vais vraiment mal, il y a un livre de Toni Morrison que j'ai pas lu. J'ai pas lu les textes posthumes de Bolaño. Voilà, des choses que je me garde si jamais je suis à court de tout. Et il y a aussi des livres qui m'attendent parce que c'est des gros pavés et qu'il me faut un moment en particulier. Il y a pas longtemps, j'ai acheté Les Métamorphoses, traduites par Marie Cosnet, je sais pas comment
on
dit.
On peut dire les deux, mais en tout cas, oui.
Et ça me fait très envie, mais voilà, c'est un gros livre. J'aimerais avoir beaucoup de temps, vous l'avez lu.
Aux éditions de Logre, en plus.
C'est
une petite dorure comme ça sur la couverture. C'est sublime.
un très beau livre. Ben, il m'atteint et je le vois là, il est sur mon étagère.
Ça va, c'est un bon ami qui vous attend. Est-ce que vous avez une table de chevet? Est-ce qu'il y a des livres dessus en ce moment?
Alors là, je suis en voyage, donc j'ai une liseuse, mais chez moi, oui, j'ai une table de chevet.
C'est quoi la catégorie? Comment on peut qualifier ceux qui sont là?
En général, ceux que je suis en train de lire, hein, tout simplement, mais il y a une grosse pile, je ne suis pas du tout ordonnée. Mais alors là, c'est rigolo parce que je les vois. J'ai deux livres qui ont pratiquement le même titre, qui se sont trouvés là par hasard. Un livre que j'ai terminé, La Foudre, de Pierrick Bailly.
Bailly, chez P.O.L.
Un très très beau roman. Et un autre livre qui s'appelle Après la Foudre, je crois que ça s'appelle, de Claire Fercag. Que j'ai déjà lu une fois, mais que je voulais relire, je sais plus trop pourquoi. Et c'est assez curieux parce qu'ils sont tous les deux là sur ma table de nuit. Et il y a pas longtemps, alors qu'ils étaient déjà sur la table de nuit, je me suis pris une décharge de foudre chez moi. Donc c'est assez curieux. Et ils ont rien à voir, ces deux livres, mais ils sont tous les deux fabuleux. Claire Fercag, j'avais acheté ce livre-là parce que j'avais été impressionnée par un livre qu'elle avait écrit avant, qui s'appelle Ce qui est nommé reste en vie. Je ne sais pas si elle appelle ça de la non-fiction, mais enfin, c'est un texte autobiographique que j'avais trouvé d'une forme absolument éblouissante, qu'elle avait trouvé pour parler de la relation à sa mère qui s'en va et qui a une maladie qui l'emporte très vite, et qui est un livre lumineux tout en étant très grave. Et donc après, je me suis dit, je vais lire tous ces livres.
Ok, beau programme. Est-ce qu'il existe une photo de vous, Neige Sino, avec un livre à la main?
Non, je crois pas. Je crois pas, mais par contre, j'ai un ami qui est dessinateur, qui m'a beaucoup dessiné en train de lire. Donc, il y a des dessins à la place. Non, j'ai pas souvenir d'une photo. J'ai une photo rigolote où ma fille fait semblant de lire. Elle doit avoir 2 ans et elle a un gros pavé de Le Don Paisible. Un gros truc de Cholokhov. Et je pense qu'elle m'a vue. Elle m'a vue, elle voulait faire comme moi, donc elle tient le gros truc. Mais non, des photos de moi, je crois pas.
On va aller vers votre texte à vous, Triste Tigre, paru aux éditions POL. On va y aller par ce chemin, qui est un extrait de la bande originale du film Petite Maman, réalisé par Céline Sciamma, qui est un film que j'adore, et avec une chanson que j'adore.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
C'est un book club où on parle de tristes tigres. Votre livre paru en cette rentrée littéraire chez POL, Neige Sino. Si on vous lit, Neige Sino, il y a beaucoup de choses qui échouent dans ce projet de livre. Un portrait d'un violeur, une chronologie exacte des faits, le langage dans son rapport à la vérité, une compréhension profonde des bourreaux. Mais de ces apparents échecs, vous faites une matière d'écriture précise, une matière à penser, le texte. Avant ces questions, on vous entend l'écrire, on vous entend le relire, vous vous adressez à nous directement, on attrape certaines de ces questions comme des branches, peut-être parce qu'il nous est plus facile de penser que de faire face seul, je dis seul, c'est-à-dire sans votre rhizome de pensée, faire face au bloc de violence que constituent des viols commis sur une enfant pendant des années. Les voilà, ces questions, quelques-unes de ces questions qui nous sauvent du seul effroi. Qu'est-ce qui établit la vérité si un procès ne le peut pas tout à fait? Est-ce qu'il existe une bonne distance pour écrire sur des crimes incestueux? Qu'est-ce que peut le témoignage quand il doit frayer avec le trou noir du monde? Quel crédit accorder au mot quand le mot viol a été remplacé par câlin, quand on a tenté de recouvrir à l'oreille d'une enfant la réalité de torture par deux syllabes? Amour. Comment ce qui se passe dans un sous-sol de magasin de ski, dans toutes les pièces d'une maison, partout en fait et pendant des années, nous concerne tous et engage absolument notre responsabilité. Qu'est-ce qu'on n'entend pas quand on n'entend pas que 90 à 95% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes? Est-ce que les hommes qui violent des enfants le font parce qu'ils peuvent? Pour reprendre cette réponse que donne un historien quand sont questionnés des actes de grands criminels de guerre, ils le font parce qu'ils le peuvent. J'ai été fortement éprouvée dans ma place de lecture, peut-être éprouvée comme jamais. Éprouver qu'on me parlait à travers un texte. Et si j'ai été évidemment particulièrement bousculée par cette lecture, je me suis aussi sentie protégée par vous, Neige Sino. Et je me suis demandé à quelle place vous nous imaginiez, nous, ce peuple de lectrices, de lecteurs, parfois vous nous appelez amis, pendant que vous écriviez ce texte.
C'est très touchant de voir que ce lecteur et cette lectrice que j'ai projeté, que j'ai imaginé, ils se superposent aujourd'hui avec des vrais gens. Je suis très touchée d'entendre vos questions, votre lecture, parce que je ne sais pas si je projetais des vraies personnes qui allaient vraiment le lire. Et en même temps, oui, je projette une lectrice, un lecteur, je projette en tout cas un allié, comme vous dites. Hein. Ça varie dans le livre. Des fois, c'est un allié. Des fois, c'est quelqu'un qui observe. Des fois, c'est quelqu'un qui a vu les mêmes choses que moi. Des fois, au contraire, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce que j'ai vu.
À qui il faut tout expliquer, qui est peut-être un peu benêt d'ailleurs aussi. Parfois, on a une place où je me dis que non seulement vous nous protégez, mais vous nous enseignez des choses. Il y a des choses que vous nous dites.
Mais ça m'énerve. Alors, je reviens dessus. Quand je commence à faire ça, je me dis, mais non, c'est pas possible que j'aille vers là. Donc, je me reprends. Le lecteur, la lectrice que je préfère, il y en a que j'aime bien, il y en a que j'aime moins. Il y en a qui me font peur. Il y a aussi ceux et celles qui ne vont pas me lire, qui sont... Évidemment, je ne peux pas m'adresser à eux, puisque je sais qu'ils ne vont pas me lire, mais ils sont présents dans ma tête. Enfin, il y a tout ça. Parce que je n'ai pas écrit une histoire. C'est très clair depuis le début de ce livre pour moi. Au début, je me suis dit, je vais trouver un fil narratif et raconter une histoire visible et une histoire invisible et les superposer. Et je me suis rendu compte très vite que j'étais pas en train d'écrire une histoire, que j'étais en train de proposer à qui veut de rentrer dans cette bulle qui est ma tête. Et donc là, tout change en fait. Parce que là, moi, normalement, j'écris de la fiction, donc je me pose pas la question de qui va me lire. Est-ce qu'il y a un lecteur, est-ce qu'il n'y a pas de lecteur? Je me plonge dans mon truc. Et là, au contraire, c'était si je m'adressais à quelqu'un, je dirais quoi? Et donc ce quelqu'un, il a plein de facettes et on n'est pas obligé d'être à sa place dans la lecture. On peut aussi se dire là, je suis pas à ma place, ça me concerne plus ou moins. Mais de temps en temps, j'ai l'impression que ça touche des endroits où ça tombe juste. Et là, vraiment, c'est pas mon... Je peux pas savoir à qui ça va parler, à quel endroit.
À quoi ça a ressemblé ce temps d'écriture? Combien de temps il a duré, Neige Sino?
C'est compliqué de répondre parce que le temps d'écriture réel, je pense que ça a duré, on va dire, un an et demi, à peu près, je pense, pour moi. Mais bon, il y a des choses que j'avais déjà écrites, j'ai pioché un peu partout dans mes archives, dans mes fichiers. Et J'écris beaucoup sous forme de fiction sur ce même sujet. Donc il y a eu une très 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 longue préparation, on peut dire, mais une écriture très rapide. Et je voulais... je pense que j'ai lu des critiques littéraires qui disent un livre qui s'écrit rapidement se lit rapidement, et moi je voulais qu'on me lise vite. Je voulais que ce livre ait un rythme, qu'on me lise vite et qu'on me lise jusqu'au bout. J'avais un peu cette idée parce que comme je... C'est des choses paradoxales et on peut pas s'arrêter. Si on s'arrête à une seule partie,
on n'a qu'une facette
de ce que je cherchais à montrer ou à... J'ai pas cherché à montrer quoi que ce soit, mais ce que je cherchais à explorer, ce petit cheminement que je propose, je souhaitais qu'on aille jusqu'au bout.
Notamment parce que vous dites que vous souhaitez que ce soit un chemin paradoxal, que ce soit possible d'hésiter, de douter, de dire quelque chose, de se contredire. Parce que peut-être c'est quelque chose qui est beaucoup empêché aux victimes qui doivent raconter les violences. Elles doivent être cohérentes, elles doivent être en conscience de la chronologie, elles doivent être précises. Et vous, vous avez fait de ce livre-là un espace où c'est possible d'être autre chose, Neige Sino.
Oui, tout à fait. Un truc que j'ai pas mis dans le livre, parce que je voulais pas mettre autre chose, comme je vous disais, je voulais que ça finisse plus rapidement, mais j'avais lu un texte très beau qui s'appelle « Faiseur d'histoire » de Dina Nayeri. Et elle parle de cette même chose par rapport aux réfugiés, des gens qui arrivent, qui ont vécu des traumatismes en Syrie ou dans plein d'endroits. Elle est iranienne. Et on leur demande, pour les accueillir, pour leur donner des papiers, on leur demande d'avoir une version qui est toujours la même selon la personne qui les interroge et qui est crédible dans les yeux de celui qui va la recevoir. Et eux, quand ils essaient de dire la vérité, ils font comme moi. Ils disent, je suis pas sûre de la date. Et des fois, ils se contredisent. Des fois, ils sont pas sûrs de s'ils ont été torturés par une personne ou deux personnes. Et ça, pour nous, enfin, pour la personne qui a vécu quelque chose, c'est ça, sa vérité. Et elle essaye d'atteindre sa vérité. Et en face, on l'accueille comme une menteuse ou comme quelqu'un, en tout cas, qui a une version douteuse des faits. Et une version douteuse des faits, ça veut souvent dire, dans certains contextes, dont celui de l'institution, on peut pas lui faire confiance. Elle se rappelle pas à quel âge ça a commencé, donc c'est peut-être pas vrai. Ce qui est complètement ridicule quand il s'agit de traumatisme, puisque c'est vraiment une définition du traumatisme de pas savoir exactement ce qui s'est passé. Puisque si on le savait exactement, on serait pas traumatisé.
Il y a plusieurs formes que prend le texte au fur et à mesure de la manière dont on avance. Comme vous dites, vous avez dit explorer. Moi, j'ai eu vraiment l'impression comme ça d'être sur un grand territoire et de marcher, quoi. Et d'ailleurs, je pense pour la première fois, j'ai lu en marchant. C'est étonnant, hein.
Oui, c'est curieux.
Je pouvais pas m'asseoir. J'avais besoin d'être debout et de marcher. Vraiment comme un endroit qu'il fallait arpenter, Neige Sino. Et il y a une liste, il y a plusieurs listes, mais il y a une liste des raisons pour lesquelles vous ne voulez pas écrire ce texte. D'ailleurs, à plusieurs reprises, vous dites que ce vers quoi devraient tendre vos mots, c'est le silence. Une autre raison qui serait que, en écrivant le texte, vous réaliseriez encore un désir ou un assujettissement à la volonté du violeur, à la volonté du bourreau. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites, je vais le faire? D'ailleurs, vous l'écrivez noir sur blanc. Je vais quand même l'écrire.
Oui, c'est un livre qui est complètement contenu dans ce « quand même ». Parce qu'il y a tellement de raisons pour pas l'écrire et tellement de raisons pour le faire quand même. Et ça rejoint tellement tout par rapport à la raison pour laquelle on cherche à mettre des mots sur de l'indicible. On sait que ça va pas pouvoir être dit. Et il faut quand même le faire. Et le livre est constamment dans ce paradoxe. Et ça se résout pas, c'est pas une dialectique, c'est pas oui, non, et je trouve une solution, c'est le paradoxe reste complet.
C'est-à-dire qu'une fois qu'on les a mis, les mots, et parfois des mots extrêmement difficiles, de description du corps, du violeur, de description de la bouche d'un enfant, de description d'actes extrêmement violents, ça fait quelque chose au monde, Nashino, ça fait quand même quelque chose d'écrire des mots, d'écrire ces mots-là?
Oui, mais en même temps, c'est jamais assez. Toujours l'impression que je trahis un peu ce que j'ai vu, parce que c'est pas que ça. Il y a cet abîme, je sais pas comment le dire autrement, cet abîme complet où je suis autour, je cherche, mais le... Voilà, et je le sais depuis le début, et je promets pas à mon lecteur, ma lectrice, que je vais y arriver. Je le dis depuis le début, je ne comprends toujours pas à la première page, pour qu'on soit sûr que je vais pas résoudre tout d'un coup les questions que je me pose.
Aussi peut-être parce que, comme je le disais en introduction, il y a un abus par le corps, du corps, mais aussi par les mots. Et comment on fait quand on fait de sa vie quelque chose qui a à voir avec les mots? Vous le disiez tout à l'heure avec tellement de lumière, Nejcino, le rapport à la lecture et le rapport à l'écriture avec, en fait, tout autant de lumière. Donc votre vie, c'est quand même de faire avec ça. Sauf que pendant des années, ce sont des mots qui sont venus se mettre sur des choses contraires, des choses extraordinairement violemment dissonantes. Comment on fait pour faire encore avec cette matière-là?
Oui, il y a une duplicité, pour moi, du langage. Et du coup, je pense, alors je sais pas si je réponds un peu à côté, mais la question de la vérité, elle est aussi très double. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a l'air sincère qu'on dit la vérité. Et donc je suis toujours très consciente que tout ce qu'on dit, c'est une construction, puisque j'ai été dans une position de manipulation extrême. Un enfant à qui on fait croire des choses, c'est une personne qui est manipulée au point où elle intègre cette manipulation dans sa structure. Je me suis construite dans une manipulation et j'ai dû, en grandissant, déconstruire petit à petit ça. Donc j'ai pas vraiment confiance dans le langage. Je peux jamais m'abandonner. Et en même temps, comme vous le dites, hein, la lecture, c'est la lumière la plus grande que j'ai eue dans ma vie. Donc je vais vers là. Il y a un truc un peu étrange d'une méfiance et en même temps d'un désir très grand d'aller dans ce monde-là, celui où on construit quelque chose dans le langage.
Surtout pour peut-être approfondir cette question du langage que vous explorez, Nejcino, par les souvenirs, j'imagine, la position dans laquelle vous vous trouvez, enfant, adolescente, détenant un secret et imaginant le pouvoir de destruction, la bombe que ce serait de prononcer certains mots, de dire « j'ai été violée, il me viole tous les jours, il ne fait que ça me violer ». Vous imaginez ce que ça produit dans le monde. Donc c'est aussi, vous me dites si c'est très étrange de prononcer ces mots-là, mais avoir conscience de la puissance des mots.
Oui, alors ça je ne l'ai pas eu tout de suite, hein. Je raconte bien dans le livre que c'est... Je suis adolescente quand je pense ça, et je pense que ça fait partie d'un processus de passer d'un silence complet à n'absolument pas comprendre ce qui m'arrive quand je suis très petite, vers 7 ans on va dire, on peut pas mettre de mots, le mot viol veut pas dire ce qu'on vit. Quand on entend après en grandissant un petit peu le mot viol dans la société, ça veut pas dire, ça veut toujours pas dire ce qu'on vit, puisqu'il y a pas ce qui circule dans la société, c'est quand même l'image d'une violence brutale, où on se prend des claques, où on est forcé, où on est une femme adulte se trouve dans un tunnel et elle se fait attaquer par quelqu'un. Ça reste quand même cette image-là. Donc le mot viol veut toujours rien dire, toujours rien dire. Et puis, petit à petit, j'accède à ça. Et quand j'accède à savoir que ce qu'on me fait, ce sont des viols, l'étape suivante, c'est de me rendre compte que je pourrais le dire. Alors que c'est complètement impossible de le dire pendant très 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 longtemps, parce que le silence fait partie de cette forme d'oppression qu'est l'inceste. On n'est pas seulement violé sexuellement, on est dans une posture où on ne peut pas parler. Ça fait partie, et c'est un truc vraiment bizarre. Parce que tout le monde pose la question « pourquoi t'as pas parlé ?» Même ma fille, elle m'a dit ça quand je lui ai raconté. Elle m'a dit « mais tu l'as pas dit à ta maman ?»
Et même à ta mamie ?
Oui, ou à ta mamie, ou à ta maîtresse, ou à quelqu'un, faut le dire, pourquoi tu l'as pas dit à quelqu'un? Elle, ça lui semblait complètement fou. Et ça m'a permis d'essayer de lui expliquer, quand on te fait ça, et si jamais ça t'arrive, tu vas voir que tu vas pas pouvoir me le dire. Ça fait partie de cette violence qui nous est faite. C'est une violence faite au langage. Et donc oui, ce pouvoir de le dire, ce souvenir que je raconte dans le texte...
Faites la vaisselle.
Je fais la vaisselle, ma mère est en train de parler avec une copine. Enfin, c'est une assistante sociale qui venait chez nous. Il y avait ça à l'époque, sous Mitterrand, des services sociaux qui envoyaient de temps en temps des gens dans les familles en difficulté. Elle venait chez nous, elle aidait ma mère un peu dans ses tâches ménagères et elle était aussi un peu une confidente et tout ça. Donc c'était vraiment une personne très bien placée pour entendre ce que j'avais à dire. Et elles étaient copines et elles parlent. elle discute juste à côté de moi. Et moi, je fais la vaisselle. Et au début, j'étais un peu énervée de pas participer à cette conversation. Quand il y a des adultes qui ont une conversation super intéressante, et moi, il fallait que je fasse la vaisselle, ça m'énervait. Et je vois les mots qui se forment dans ma tête. Et en même temps que ça se forme dans ma tête, je sais que je vais pas pouvoir le dire. Je sais que c'est un truc qui va me rester complètement coincé. Et je me dis, je pourrais l'écrire sur le mur avec mon éponge. Je pourrais écrire V-I-O-L. Et tout basculerait complètement. Et là, oui, je me rends compte que j'ai ce pouvoir. Et ce pouvoir, puisque je le dis pas, puisque je le fais pas, c'est un pouvoir complètement secret. C'est un truc hyper bizarre. C'est beaucoup de choses très très bizarres en fait, très sombres.
C'est un mot que vous utilisez beaucoup, oui, et dont vous vous.
Parce que là, je m'entends et je me dis, c'est bizarre de raconter ce truc. Parce
non,
que...
bah, en même temps, c'est. Enfin, faites-le.
Mais surtout que je me dis que c'est une expérience commune à beaucoup 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 de victimes d'avoir vécu des choses tellement bizarres qu'on peut pas les raconter. Et donc, je me suis donné cette liberté dans le texte de mettre les propres bizarreries que j'ai vues. Après, les autres ont eu sûrement d'autres bizarreries, des trucs souvent horribles, parfois rigolos. Parce que la bizarrerie, c'est quelque chose de paradoxal. Et du coup, comme je suis tout le temps confrontée à des choses paradoxales, et ça fait partie de la façon dont j'ai trouvé de décrire ça. Quelque chose qui est en même temps ci, en même temps ça.
Bizarre.
Bizarre. La notion du temps, non? Quand je parle de ce mot bizarre, j'essaie de comparer un peu. Je me dis un accident de voiture, c'est bizarre parce que ça arrive très très vite. Et en même temps, on a l'impression que ça dure très 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 longtemps. Et voilà, du bizarre comme ça, du bizarre existentiel. Et ce pouvoir-là dont je parle, de parler ou de ne pas parler... C'est un bizarre un peu comme ça.
C'est un bizarre dont parle aussi Annie Ernaux. Vous la citez, elle fait partie des autrices et des auteurs que vous citez, Neige Sino. Elle parle du bizarre entre ce qui se passe au moment où ça arrive et ce qui se passe après l'événement. On va l'écouter ici dans une archive de 2017.
Je dirais que je ne parle pas de moi. J'écris à partir de moi. Je crois que ça fait une différence. Parler, déjà, entre parler et écrire, ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai jamais l'impression d'exprimer un moi profond. D'abord parce que je situe toujours ma parole. Si je parle de quelque chose qui m'est arrivé, je tourne autour. Je ne lance pas sur la feuille quelque chose comme ça. Peut-être que ça vient de ces années 68, d'où je parle, moi. Vous voyez, il y a une forme de spontanéité que je n'ai absolument pas en écrivant. Absolument pas. Alors que la parole, forcément, même si je tâche de réfléchir avant de parler, elle reste quand même soumise à une sorte de présent de la parole, et aussi à une obligation à un interlocuteur qui est présent.
C'est la voix d'Annie Ernaux au micro de Laure Adler en 2017 dans l'émission Hors Champ. Neige Sino, je le disais, elle fait partie des autrices que vous citez. Je pense aussi à Virginia Woolf, dont peut-être presque la voix peut se superposer là ici dans cet extrait à celle d'Annie Ernaux. Je parle d'un endroit particulier. Il a fallu pour vous le raconter, Neige Sino, trouver cet endroit. Trouver un « je » qui tienne. Et si vous deviez décrire ce fameux « je » aujourd'hui, ce serait lequel? Ce « je » qui vous a permis d'écrire vite.
Je suis très émue d'écouter cette archive. Il y a tellement à dire. On pourrait parler une heure de tout ce qu'il y a là, des fils à tirer.
Notamment en plus sur le statut de l'écriture et de la parole.
Le narcissisme supposé, de l'autofiction, toutes ces choses-là. Oui, cette place de... Alors, il y a des amis qui l'ont lu et au début, ils n'osaient pas trop m'en parler. Ils ne voulaient pas dire « toi » parce qu'ils sentent bien que ce n'est pas moi. Donc, ils disaient « la narratrice ». Je trouvais ça un peu bizarre aussi parce que c'est effectivement un sujet d'énonciation, mais ce n'est pas vraiment une narratrice. Ce jeu, je l'ai refusé complètement. Hein, je le dis dans la liste, je n'ai pas envie de parler de moi, je n'ai pas envie de raconter mon histoire.
J'ai autre chose à faire. Je voudrais avoir autre chose à faire, vous dites.
Oui, je voudrais avoir autre chose à faire. Il y a un ami qui m'a poussé beaucoup à écrire de manière autobiographique et je lui disais, je suis plus que ma vie. Et c'est-à-dire que mon écriture, ce que j'ai à faire, c'est je veux que ça soit plus important que ce que j'ai à raconter. Et quand j'ai commencé à écrire ce texte, qui m'est un peu arrivé dessus, j'ai pas eu le projet, je me suis dit ah, je vais faire ça comme ça. J'ai eu l'impression que dans les autres textes que j'ai faits, j'ai écrit beaucoup, j'ai 46 ans, j'ai fait des études universitaires, donc j'ai eu une espèce de voie narrative qui s'est formée dans mes travaux. Alors en France, on n'emploie jamais le « je ». On dit toujours « nous » à la place de « soi », c'est assez bizarre. Nous allons étudier ça, être on est tout seul. Oui, mais en même temps, c'est quand même un « je », c'est quand même celui qui écrit. Et de plus en plus, j'ai essayé de me positionner pour plein de raisons, notamment parce que je suis entourée de gens qui travaillent en sens social et qui travaillent sur la connaissance située, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que c'est plus juste quand on fait un travail même scientifique que le lecteur, la lectrice sache d'où on part. Et donc j'avais déjà quand même en moi un jeu qui n'est pas le jeu de ma vie, qui est le jeu de ma lecture. Et de pouvoir utiliser, on va dire, ces deux jeux, mais il y en a d'autres dans le... dans le texte, savoir que quand j'étais coincée, quand je me sentais pas bien à raconter mon histoire, je pouvais passer à l'autre, qui est celle qui lit et qui s'efface un peu plus pour laisser la parole à ses lectures. Là, je me suis dit, je vais pouvoir construire un rythme qui me permet de choisir à quel moment je parle de l'horreur des violences que j'ai vécues, ou du chagrin, ou de choses qui sont émotionnellement très dures. Et à quel moment je peux tout d'un coup mettre cette petite distance très élégante. Enfin, moi, je suis peut-être pas très élégante, mais en tout cas, je l'aime beaucoup, cette distance des essais littéraires. Parce qu'il y a une élégance qui permet d'être un peu en retrait et du coup d'aller très très loin. Et donc, quand je me suis rendu compte que j'allais pouvoir jouer avec ça, ça m'a donné un enthousiasme fabuleux et ça m'a complètement lancée dans l'écriture de ce texte.
Vous parlez d'élégance, Neige Sino. Je disais tout à l'heure que moi, j'aurais pas pu avancer seule. J'aurais pas pu avancer sans ce rhizome de pensée, sans ce que petit à petit, vous tissez pour nous et qui devient aussi la toile. Alors, j'imagine, il y a autant d'expériences de lecture que de lectrices et de lecteurs, mais en tout cas, moi, ça a été ma possibilité de le faire. Sans ça, j'aurais probablement pas pu, je pense. Est-ce qu'il y a quelque chose qui était une attention, vous vous disiez, je vais construire aussi cette pensée, vous citez beaucoup Deleuze, et vous citez beaucoup ce que c'est que penser, qu'est-ce que ça fait à la vie de penser, qu'est-ce que ça fait à la vie d'être accompagné par des textes. Est-ce que c'était pour vous, ou est-ce que c'était pour nous? Et est-ce que vous aviez comme ça une préscience que, peut-être pour beaucoup d'entre nous, ce serait difficile de faire sans?
Oui. Oui, oui, oui. Ce souci de protéger, je l'ai depuis le début, parce que j'ai moi-même... était confrontée à ces émotions très violentes qu'on a quand on lit des choses aussi horribles que des violences faites aux enfants. C'est insoutenable. Donc, et des fois, c'est bien d'être confrontée à quelque chose d'insoutenable. Des fois, on a envie, des fois, on n'a pas envie. Mais j'avais envie de faire l'expérience. En tout cas, moi, je n'ai pas pu le faire de façon insoutenable. Je ne sais pas exactement pourquoi, ce n'était pas mon chemin. J'ai voulu le faire un peu de la façon, quand je raconte ça, quand une personne devient importante dans ma vie, j'ai toujours raconté ça, au bout d'un moment. Souvent l'occasion se présente, mais des fois ça ne se présente pas, et je sens que pour passer à franchir un certain cap de compréhension avec cette personne, je finis par raconter ça. Et quand je le raconte, il y a toujours un dispositif que je mets en place pratiquement naturellement, un dispositif qui me protège et qui protège mon interlocutrice. En général, c'est des copines, mais ça m'est arrivé aussi de le dire à des amis. Et je l'ai intégré complètement, ce dispositif, et je l'ai reproduit dans le livre. C'est-à-dire que j'avertis un petit peu à l'avance. Attention, il va venir quelque chose. Puis ça vient un petit peu, puis on recule un petit peu. Puis il y a une des respirations. Je prépare cette. Mais moi aussi, comme Annie Ernaux, j'ai du mal à dire parole. Parce que, effectivement, c'est une parole, mais c'est pas la même chose que quand on parle.
Mais pourtant, je vous coupe, Neige Sino. Oui. En même temps que je sentais ça, je me disais, parce que je trouve qu'on est et on va y venir, beaucoup renvoyé à la responsabilité collective. C'est-à-dire, ça n'est pas seulement un beau-père qui viole pendant des années une petite fille de ses 7 ans à ses 14 ans. C'est un monde qui le permet, c'est un discours autour qui le permet. Donc très rapidement, on est pris dans cette histoire, pas comme des individus qui en seraient extérieurs. Et donc, je me disais, est-ce qu'elle nous ménage ? C'est-à-dire, j'avais l'impression que je manquais de courage de ne pas pouvoir y aller sans cette pensée-là, sans cet appareil.
On se ménage, je ménage ma lectrice à certains moments, et quand je sens que c'est pas, bon,
ouais.
Voilà. Donc c'est quand même pas comme ça, c'est pas bisounours, je suis pas du tout quelqu'un bisounours.
Ni le texte.
Non, ni le texte, mais simplement c'est tellement énorme que... J'ai pas besoin d'agresser. Et je me fais la remarque à moi-même, parce que des fois ça arrive. Des fois j'ai de la colère. Et cette colère, elle va. Quand je sens qu'elle se dirige contre celle qui lit, celui qui lit, je repars en arrière parce que je me dis c'est pas ça que je veux faire. Parce que quand on est sidéré, on peut pas penser. Et que moi, mon but principal dans ce texte, c'était d'oser penser et de donner à penser, de demander. Cette écoute et que celui, celle qui lit, se permette d'oser penser aussi.
Face à des questions aussi vertigineuses ou avec des questions aussi vertigineuses que celles qu'on va entendre dans l'extrait qui va venir, le texte n'est fait que de questions. Parfois, vous avancez des réponses, parfois, vous les décousez tout de suite après. Nechino, si bien qu'on sort avec beaucoup de questions, dont celle que charrie ce texte. Trop d'introduction.
Si on me demande de nommer ma plus grande qualité ou une qualité qui me définit, je dis que je suis courageuse. Je le dis presque sans y penser, je ne sais même pas si j'en tire vraiment une fierté. Je le dis parce que je crois que c'est parfaitement vrai. C'est ça, ma qualité. La sage-femme qui m'a accompagnée pendant mon accouchement a dit cela de moi, que j'étais courageuse, et pourtant elle n'était pas prolixe en compliments et elle avait vu un certain nombre d'accouchements avant le mien. Elle avait plus de 70 ans, avait perdu 2 enfants en bas âge, mais dans notre moment partagé de terreur et de grâce, quand la mort nous a frôlés, elle et moi, et Max et notre petit enfant qui n'avait pas encore de nom, elle m'a regardée dans les yeux et elle a vu ce qu'il y avait là, de la peur, de la tristesse, de la colère, de l'espoir, 1000 choses, mais ce qu'elle a vu surtout, c'est cet immense courage, cette force à la fois cruelle et innocente, presque obscène dans son intensité, ce désir d'affronter l'obscurité. C'est un peu ce qu'a voulu dire l'avocate quand elle mentionne mon incroyable détermination à écarter cet homme, la force que j'ai mise à vouloir mener ma vie. Il ne m'a pas obligée à être courageuse, c'est la réponse que j'ai choisi d'apporter à l'agression. Mais enfin quand même, ça vient de là. Ma plus grande qualité, celle que j'invoque dans les moments de détresse, quand tout me semble se déliter, elle vient de ce que j'ai vécu, de ce qu'il m'a fait. Tout mon caractère, c'est lui qui l'a fait, le bon et le mauvais, le génial et le terrible.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Nechino, je le disais, il y a beaucoup de questions. On pourrait passer aussi beaucoup de temps sur la question du procès, sur la question de la vérité, sur la question de la justice, sur la plainte, sur les documents que vous portez. Ils sont rares dans les faits, mais ils sont nombreux dans ceux que vous imaginez pouvoir porter dans ce texte, Nechino. Ça fait partie des plus vertigineuses, celles qui émanent de ce texte, à savoir à quel point le viol, les viols répétés, façonnent celle qui les a subis, façonnent celui qui en est l'auteur. Il y a quelque chose de la glaise du fait d'être fabriqué par des actes, voilà, qui est vertigineux. Je ne sais pas si vous avez l'impression que la question, elle est tranchée avec la fin de ce paragraphe qui dit « oui, c'est sûr ».
Je ne sais pas si c'est tranché, mais j'ai lu « Le berceau des dominations » de Dorothée Ducy après avoir écrit ce texte. Et dans un livre comme ça, elle pense même que ce n'est pas seulement... ceux qui ont vécu ça, qui sommes structurés et formés par ça, c'est la société tout entière. Parce qu'une personne sur 10, ça veut dire que si on ne l'a pas vécu, on a un camarade de classe qui le vit, on voit comment il se comporte, on a un oncle qui le fait, quelqu'un d'autre dans la famille. Et tout ça, ça nous constitue, nous tous. Et ce silence, puisqu'on n'en parle pas, il nous constitue, nous tous aussi.
Elle dit que c'est la structure même. Ça sert notre structure. L'inceste sert la structure de notre société
contemporaine. Oui, là, c'est encore un pas en plus, non ? C'est encore un pas en plus du raisonnement que j'ai là, dans le livre. C'est effectivement vertigineux, c'est terrible. C'est-à-dire de considérer que, puisqu'il faut qu'il y ait des dominés et des dominants, ça nous convient de maintenir ça. C'est vertigineux, parce que la question qui vient après, c'est si ça changeait, qu'est-ce qui va se passer ?
Elle en fait l'apprentissage, pour la paraphraser très rapidement, Neige Sino, l'apprentissage de la plus profonde des dominations, de l'établissement et du fait que demeure le patriarcat. Elle le fait dans l'extrême domination qui a lieu dans l'inceste. Elle dit même, et vous en faites aussi l'hypothèse dans votre texte, que la dimension sexuelle de cette domination pourrait être presque marginale.
C'est un grand questionnement, hein, parce que j'ai hésité sur la façon de comprendre cet argument, parce que ça, c'est pas une réflexion que j'ai eue de moi-même, ce sont des choses que j'ai lues, et quand je les ai lues, ça fait clic en moi, et je me suis dit, mais oui, c'est la domination avant tout. On est avant tout un esclave. Christine Angot, elle parle de l'esclavage de l'enfant incesté. Avant d'être quelqu'un qui vit des sévices sexuels. Et pourquoi ça fait clic en moi ? Parce que ça résonne avec ce que je perçois de mon expérience. Mais ça ne supprime pas non plus le fait que c'est quand même à travers une domination sexuelle. Et c'est là aussi, c'est vertigineux, puisque dans notre société, la sexualité est très valorisée. Donc, c'est encore un paradoxe. Parce que on a l'impression aussi, quand on dénonce une possibilité d'asservir quelqu'un à travers la sexualité, comme si on donnait une mauvaise image de la sexualité, et ça aussi c'est mal vu. Mmh. Et là aussi tout de suite il y a des critiques qui viennent, comme si on essayait d'imposer une pensée conservatrice et... C'est bizarre, parce qu'on est limité de tous côtés, en fait. Dès qu'on commence à essayer de parler de ça, on est limité, on a intégré en soi toutes sortes de censures, hein. Je le raconte à un moment donné, j'ai un projet avec des copains, et un projet artistique pour
une
parler de ça.
Voilà. Collective.
Et au bout de quelques mois, on s'épuise, et Dorothée Ducy et ses collègues qui ont écrit un autre livre qui s'appelle La culture de l'inceste, ils racontent ça en introduction. Qu'au début, ils sont partis 1000 et ils terminent 10. Et c'est toujours comme ça. Et c'est dû à toutes ces injonctions et ces impossibles d'en parler encore aujourd'hui, alors que bon, on est quand même en plein dedans.
Vous dites « on » dans vos phrases de Neige Sino, et le texte se termine par « impossible nous », en tout cas, il y a quelque chose dont vous vous faites porteuse, une parole. Je disais que vous aviez beaucoup de lumière dans les yeux en parlant de lecture tout à l'heure, au début de cette émission. C'est un texte qui ose la lumière à la fin, sans se départir du torrent de larmes, mais quand même. Pourquoi est-ce que, ou qu'est-ce que vous avez trouvé dans la possibilité de dire « nous » à la fin de « Triste Tigre » ?
C'est construit depuis le début. Depuis le début, je sais que je suis sur une frontière entre l'individuel et le collectif. Ce que vous disiez tout à l'heure, non ? C'est mon histoire, mais en même temps, c'est l'histoire de la société. Et je ne peux pas parler du phénomène social, puisque de toute façon, je ne suis pas spécialiste. Hein, et je ne me suis pas vraiment empêchée, mais je n'ai pas voulu aller chercher des réponses trop précises. J'ai voulu me donner cette possibilité de vraiment rester dans mon écriture, comme elle avait été avant, et dans ma formation, qui n'est pas une formation très 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 renseignée, mais quand même, je sais que c'est un phénomène social, et donc je sais que je suis là, et en même temps, il y a le côté de savoir que je ne peux pas parler à la place des autres, et que cette histoire est seulement la mienne, mais si je reste là-dedans, je suis coincée dans la vie privée et je veux pas, donc je suis constamment à la frontière entre les deux.
Ce qui me fait dire que ce nous final, je l'ai plus lu comme un nous poétique, nourri de la possibilité de dire nous poétiquement, sans lui enlever sa dimension politique, vous voyez ce que je veux dire, mais un « nous » aussi du peuple des poèmes que vous convoquez dans ce texte-là, Neige Sino. « Triste tigre », c'est le titre de ce livre. Il a paru aux éditions POL. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est 15h50 et tous les jours à cette heure-ci, le Book Club reçoit de la visite. Chaque mardi, c'est vous, Lou Quevauvillé, qui nous rendez visite. Bonjour Lou.
Bonjour Marie.
Pour votre chronique lecture numérique, chaque mardi, vous cliquez sur quelque chose. Pour nous, aujourd'hui, on clique sur quoi ?
Aujourd'hui, on clique sur ubu.com pour visiter une immense bibliothèque virtuelle dont les rayonnages ne cessent de se densifier même 27 ans après sa création. En quelques clics, on accède à des milliers d'archives rares, voire introuvables ailleurs, des archives autour de la littérature, du cinéma, de la musique et de la danse dite expérimentale ou d'avant-garde du XXe et du XXIe siècle. Le site s'intéresse principalement à collecter les œuvres confidentielles d'artistes reconnus, des œuvres diffusées à toute petite échelle qui auraient complètement disparu du circuit si elles n'avaient pas été consignées scrupuleusement par des collectionneurs et des collectionneuses. C'est le cas par exemple du hip-hop du peintre Jean-Michel Basquiat, des films du musicien John Lennon ou des pièces radiophoniques de la journaliste Ulrike Meinhof. Il y en a vraiment pour tous les centres d'intérêt.
Est-ce qu'on sait qui a créé Ubu, Lou ?
Oui, on sait. Le projet est porté depuis ses débuts par le poète et théoricien américain Kenneth Goldsmith, qui milite depuis de nombreuses années pour une écriture du plagiat, de la copie et de la retranscription. Il mène notamment des recherches plus récentes sur ce que le numérique génère comme nouvelle possibilité d'écriture et comme nouveau rapport à la lecture. Mais je rembobine. Au départ, en 1996, avant de devenir une archive géante d'art expérimental, toutes disciplines confondues, Kenneth Goldsmith imagine ce site internet pour pouvoir déposer et accueillir uniquement le plus d'archives possible dédiées à la poésie concrète. La poésie concrète, ou la poésie visuelle, c'est la même chose, a émergé dans les années 50-60 et s'inspire des arts plastiques. Elle fait moins appel à la syntaxe et au rythme de la langue qu'à la spatialisation des mots sur le papier. Souvent, à l'école, dans les petites classes, on étudie les calligrammes d'Apollinaire, notamment celui qui s'appelle « Il pleut ». Les mots de ce poème sont disposés sur la feuille verticalement pour représenter les gouttes et la pluie qui tombe. Il s'agit bien là d'un exemple de poésie concrète. Alors, Apollinaire, c'est bien avant les années 50, bien sûr, mais il est identifié comme l'un des précurseurs de ce courant littéraire. D'ailleurs, je signale au passage une très belle archive sonore sur Ubu où Apollinaire lit lui-même ses poèmes en 1913. Apollinaire est évidemment l'un des poètes les plus connus sur le site, mais il y a tout à découvrir de la poésie concrète d'artistes plus confidentiels comme Henri Chopin, Barbara O'Connelly, Rosemary Waldrop et des dizaines d'autres.
Bon, alors ça fonctionne comment ? Comme d'habitude, j'ai quand même été faire ma petite curieuse. À partir de votre chronique, j'ai été voir le site. Qui est-ce qui l'alimente ? Je me suis aussi posé la question des droits d'auteur. Est-ce que tout ça, c'est légal, Lou ?
Toutes ces questions sont des questions essentielles. Sur le site, on peut lire qu'Ubu n'a pas besoin d'argent, de financement ou d'appui. L'équipe autour de Kenneth Goldsmith est une équipe bénévole composée majoritairement d'universitaires et d'artistes. L'hébergement des données est offert par des donateurs. Il y a même des universités qui hébergent les données. Et les contenus sont déposés la plupart du temps par des amateurs, amatrices et collectionneurs, collectionneuses avant d'être mis en ligne à la main et sans aucune autorisation. Plusieurs ayants droit ont évidemment protesté, mais le temps a passé et le site a été toléré sans jamais avoir dû fermer. Maintenant, de nombreux éditeurs enrichissent la bibliothèque en envoyant gratuitement les copies des textes, des films ou des enregistrements sonores qu'ils commercialisent par ailleurs sur le marché. Ces artistes demandent même à voir leur travail ajouté sur la plateforme. Et puis, Ubu s'est aussi lancé dans la réédition numérique de certains textes comme ceux de Maurice Blanchot ou de Monique Wittig à l'époque.
Ubu a un manifeste, est-ce que vous voulez bien nous le lire, Lou ?
Oui, il se compose de 6 points majeurs et il est à destination des bénévoles de la plateforme et de qui voudrait se lancer dans une aventure similaire. Je lis donc, premier point, maintenir la simplicité et éviter les constantes mises à jour technologiques. Ubu est en HTML simple, rédigé avec un éditeur de texte. Deuxième point, même un site web devrait être visible hors ligne. On devrait pouvoir prendre le disque dur et partir en courant, éviter le cloud, donc les espaces de stockage immatériels, faits d'ordinateurs appartenant à des gens qu'on ne connaît pas et qui ne se soucient pas de vous. Troisième point, ne demandez jamais d'autorisation. Cela vous ferait attendre une éternité en vous transformant en comptable ou en avocat. Quatrième point, ne promettez jamais rien. Faites comme ça vous plaît. Cinquième point, vous n'avez pas besoin de moteur de recherche, comptez sur le bouche à oreille et les liens directs pour former graduellement votre public. Et dernier point, tout est passager, même après 20 ans, les serveurs s'effondrent, les disques durs meurent, la vie change et shit happens. Le soin et la redondance sont le seul chemin vers la longévité.
Bon, on l'entend dans ce manifeste, il y a vraiment une dimension politique à ce site Ubu. Est-ce que c'est une vision politique de l'accessibilité à l'Arlo?
Oui, en effet. Et pour en savoir plus, je vous conseille la lecture du livre de Kenneth Goldsmith intitulé « Duchamp is my lawyer »,« Duchamp est mon avocat », où l'artiste et théoricien revient sur l'histoire du Ubuweb, ses motivations et la manière dont les œuvres sont archivées, consommées et diffusées en ligne. Il parle d'Ubu, mais aussi plus généralement de toutes les bibliothèques pirates en ligne, comme la sienne. Le livre s'appuie sur sa propre expérience, mais aussi sur des entretiens qu'il mène avec des experts de cette question. Le livre se conclut en inscrivant Ubu en faveur du mouvement de la culture libre et de l'accès aux œuvres pour tous et toutes en s'opposant, je cite, aux gardiens actuels de la culture algorithmique tels que Netflix, Amazon et Spotify.
Conclusion, on va se promener sur ubu.com, Lou, et on réécoute lecture numérique sur franceculture.fr. Merci beaucoup.
Merci.
Et je reviens très vite. Pas me faire piéger comme hier. Il est l'heure de jouer le grand jeu des pages musicales. Vous pouvez y jouer via Instagram, via le book club de France Culture. Vous nous envoyez des photographies de vos lectures dès qu'un air musical est évoqué dans un texte. La trouvaille du jour, on la doit à Marguerite. C'est un extrait du livre Strange, paru en août 2023 aux éditions Grasset. La narratrice s'appelle Nora, c'est une femme trans. Elle écrit une longue lettre à son père pour lui raconter tout ce qu'il ignore, la mort de sa mère, les déguisements, les brutalités subies dans la cour du collège, les mensonges, la douleur et la découverte du chant. Les jours suivants, je sèche le conservatoire. Je suis prise d'une fièvre qui ne me lâche pas. Sur Internet, je découvre une méthode américaine pour atteindre les aigus qui me plaît. Il s'agit de faire basculer ma pomme d'Adam et de remonter mon larynx. C'est une incroyable gymnastique intérieure. Je travaille d'arrache-pied. Il faut que je me constitue un nouveau répertoire taillé sur ce que je suis. La mort de Didon, de Purcell, mais aussi de la chanson française, Ma plus belle histoire d'amour, de Barbara, ou Both Sides Know, de Joni Mitchell. Un soir, j'arrive à l'improviste chez Anna. Elle rentre du théâtre. J'annonce. Je t'ai préparé un truc. J'ai besoin que tu me dises. Au son aujourd'hui, c'était Noé Chabanne à la réalisation, Colin Gruel au pied levé. Merci beaucoup Colin, un grand merci à tout le reste de l'équipe du Book Club, Alexandre Alaï-Begovic, Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Oriane Delacroix, Didier Pinault, Mathilde Wagman et Léa Weissgruss. Vous pouvez réécouter l'émission sur franceculture.fr et en podcast via l'application Radio France. Vous pouvez évidemment rejoindre la communauté du Book Club via Instagram, participer au grand jeu des pages musicales et nous envoyer vos questions. J'ai oublié les questions des auditeurs. Voilà, désolée. Eh ben, il y avait deux questions pour vous, Neige Sino, on les mettra sur le site. Voilà. Très bel après-midi à toutes et à tous sur France Culture. And if you care, don't let them know. Give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love. France Culture, l'esprit d'ouverture.